Wilkie Collins, Mad Moncton. Chapitre 6. Je revins à toute course dans le village où j'avais laissé les mules, et je me retrouvai à Fondy peu d'instants avant le coucher du soleil. En montant l'escalier de l'hôtel, j'étais en proie à l'incertitude la plus pénible, ne sachant trop sous quelle forme seraient le mieux accueillies les révélations que j'avais à faire. Si je ne parvenais pas à préparer Alfred le mieux possible aux nouvelles que j'apportais, une organisation comme la sienne pouvait rendre fort graves les conséquences d'une pareille révélation. Je n'étais rien moins que sûr de moi-même quand j'ouvris la porte de sa chambre, et lorsque je fus en face de lui, son accueil me prit tellement à court que pendant une minute ou deux, je me trouvais complètement hors de garde. Il ne restait aucune trace de la léthargie où je l'avais vu plonger pendant notre dernier entretien. Ses yeux brillaient, ses joues étaient animées. À mon entrée, il se redressa vivement et refusa la main que je lui tendais. « Votre conduite à mon égard n'a pas été celle d'un ami, me dit-il d'un ton irrité. Vous n'aviez pas le droit de poursuivre seul les recherches que nous faisions en commun. Vous n'aviez pas le droit de me laisser seul ici. J'ai eu tort de me fier à vous, vous ne valez pas mieux que les autres. » J'étais peu à peu revenu de ma première surprise et me vis en état de lui répliquer sans lui laisser le temps de poursuivre. Il était tout à fait inutile, vu sa situation, soit d'argumenter avec lui, soit de me défendre. Je pris donc le parti de tout risquer, en lui faisant immédiatement connaître les résultats de ma tournée. « Vous serez plus juste envers moi, Moncton, lui dis-je en l'interrompant, lorsque vous saurez quel service j'ai pu vous rendre pendant ma courte absence. Ou je me trompe fort, ou le projet qui nous a fait quitter Naples va bientôt nous y ramener tous deux. » La rougeur qui couvrait ses joues s'effaça presque instantanément. Sans que j'en eusse conscience, l'expression de ma physionomie, l'accent de ma voix, par quelques nuances imperceptibles, venait, grâce à la subtilité de ses impressions nerveuses, de lui en dire plus long que je ne l'aurais voulu tout d'abord. Ses yeux s'arrêtèrent sur les miens avec une fixité profonde, sa main étreignit mon bras, et d'une voix basse, d'un ton passionné, « Dites-moi tout de suite ce qui en est. L'avez-vous retrouvé ?» Il était trop tard pour reculer. Ma réponse fut affirmative. Sous terre ou sur terre? Sa voix s'était brusquement élevée pour m'adresser cette question, et celle de ses mains qui étaient encore libres vint se cramponner à mon autre bras. Sur terre. À peine ces deux mots prononcés, le sang afflua de plus belle sur les joues d'Alfred. Ses yeux, toujours fixés sur les miens, prirent un éclat singulier. Il poussa un triomphant éclat de rire qui m'émut et me révolta au-delà de toute expression. « Que vous disais-je? Que pensez-vous maintenant de la vieille prophétie ? » s'écria-t-il en lâchant mes deux bras pour arpenter la chambre de long en large. « Convenez que vous aviez tort. Convenez-en comme il faudra que tout Naples en convienne quand on les verra revenir dans son cercueil. » Ces éclats de rire devenaient de plus en plus bruyants. Je voulus, mais en vain, le calmer. Son valet de chambre et le maître de l'auberge accoururent au bruit, mais leur présence ne faisait qu'alimenter l'incendie, et je les priai de se retirer. En refermant la porte sur eux, je remarquai, déposé sur une table voisine, le paquet des lettres de Miss Elmsley, que mon malheureux ami conservait avec tant de soin, et lisait, relisait sans cesse, avec une si tendre assiduité. Comme il me regardait lorsque je passais près de la table, il vit lui aussi ses lettres, et l'aspect de ce trésor, qui lui rappelait sa fiancée, se combinant avec l'espoir nouveau qu'avait déjà fait naître en lui la nouvelle dont j'étais le porteur, sembla le bouleverser à l'instant même. Ses rires cessèrent, son visage changea, il courut vers la table, saisit ses lettres, et son regard se détachant d'elle pour venir à moi, prit une expression qui m'alla droit au cœur. Alfred ensuite s'affaissa sur ses genoux auprès de la table, posa son front sur les lettres et fondit en larmes. Je laissai un libre cours à cette émotion nouvelle et quittai l'appartement sans dire un seul mot. Lorsque j'y rentrai au bout de quelque temps, je le trouvai tranquillement assis sur un fauteuil et lisant une des lettres qu'il avait prises dans le paquet encore étalée sur ses genoux. Sa physionomie n'exprimait plus que les meilleurs sentiments, et quand il se leva pour venir à moi, m'offrant la main avec une visible inquiétude, ce geste, dans sa douceur et dans sa délicatesse, avait quelque chose de vraiment féminin. Il était maintenant bien assez calme pour entendre, sans trop d'émotion, le récit que j'avais à lui faire. Je n'en retranchai rien, sauf les détails relatifs à l'état dans lequel j'avais retrouvé le cadavre. Quant à nos démarches futures, je n'en revendiquai nullement l'initiative, ne me réservant que le droit absolu de surveiller l'enlèvement du corps et le priant de se borner à l'examen de l'écrit signé par M. Foulon quand il aurait reçu de moi l'assurance que les restes enfermés dans le cercueil étaient bien ceux qui avaient fait l'objet de nos recherches. « Vos nerfs, lui dis-je par matière d'excuses, ne sont pas aussi robustes que les miens. C'est ce qui me fait solliciter de vous la direction de tout ce qui reste à faire, jusqu'au moment où j'aurai remis dans vos mains le cercueil de plomb, bien et dûment scellé. Cela accompli, je donne ma démission. « Je n'ai pas de mots pour reconnaître vos bontés, me répondit-il. Mon propre frère n'aurait pas mieux supporté les inconstances de mon humeur et n'aurait pu me prêter une aide plus patiente que vous ne l'avez fait. » Il se tut et son visage reprit une expression pensive, tandis qu'il rattachait lentement et avec soin le paquet de lettres de Miss Elmsley. Ensuite, il jeta un regard rapide du côté de la muraille nue à laquelle j'étais presque adossé, regard étrange dont je ne pouvais méconnaître la portée. Depuis mon départ de Naples, je m'étais volontairement abstenu de l'agiter en revenant avec lui sur cette apparition par laquelle il se croyait escorté sans cesse. Mais en ce moment, il semblait si calme et si recueilli, je regardais comme si peu probable qu'une allusion à ce sujet délicat pût l'affecter violemment, que je me risquais à lui en parler sans détour. « Serait-ce, lui demandai-je, que le fantôme vous apparaît encore, ici comme à Naples ?» Il me regarda et se mit à sourire. « Ne vous ai-je pas dit qu'il m'accompagnait partout ?» Ses yeux allèrent chercher dans l'espace vide la vision familière, et il adressa du même côté le reste de ses paroles, comme s'il continuait la conversation avec une personne tierce, debout près de moi. « Nous nous séparerons, disait-il lentement et d'une voix douce, quand j'aurai fait combler le vide qui existe encore dans les caveaux de Wincott. Ce jour-là, je serai encore debout avec Ada, devant l'autel de la chapelle abbatiale, et quand mes yeux rencontreront les siens, ils n'y retrouveront plus l'expression de torture qui les désolait. » Il appuya, parlant ainsi, son front sur sa main, et se mit à se répéter à lui-même, à voix basse, les vers de l'ancienne prophétie. « Au caveau de Wincott, sépulcre de leur race, si quelqu'un des Moncton manque à prendre sa place, si ce possesseur né de tant de chants divers demeure sans abri la pâture des vers, il ne faut pas douter que le courroux céleste voue alors au néant cette race funeste. Un par un, tour à tour, objet du même deuil, ses membres sans enfants descendront au cercueil, et le dernier d'entre eux tombant sous la cognée, des Moncton finira la tragique lignée. » M'imaginant qu'il avait récité les derniers vers avec une sorte d'incohérence, je voulus l'amener à changer de sujet, mais il ne prit pas garde à mes paroles, et continuant de s'adresser à lui-même, « La race des Moncton s'éteindra, répétait-il, mais ce ne sera pas avec moi. Le décret fatal ne pèse plus sur ma tête. Je donnerai la sépulture à celui qui la réclame. Je comblerai la place vide dans le souterrain de Wincott. Alors commencera une vie nouvelle, pour moi comme pour Ada. » Ce nom sembla le rappeler à lui-même. Il ouvrit son écritoire de voyage, et après y avoir replacé le paquet de lettres, il y prit une feuille de papier. « Je vais, me dit-il, se tournant de mon côté, je vais mander à cette chère enfant toutes ces bonnes nouvelles. Elle en sera plus heureuse que moi. » Fatigué par les événements de la journée, je le laissai à son bureau pour m'aller mettre au lit. Mais j'étais ou trop inquiet ou trop las, et le sommeil ne vint pas. Pendant cette veille forcée, je songeais naturellement à la découverte récente et aux conséquences probables qu'elle devait avoir. En me préoccupant ainsi de l'avenir, je sentais mon esprit sous le coup d'un abattement inconcevable. Pas le plus léger prétexte à cette vague mélancolie. Les restes à la recouvrance desquels mon malheureux ami attachait tant d'intérêt étaient définitivement retrouvés. On les mettrait sans aucun doute à sa disposition dans un délai assez bref. Il lui serait loisible de les transporter en Angleterre sur le premier bâtiment marchand qui viendrait à quitter le port de Naples. Ce caprice étrange une fois réalisé, on pourrait tout au moins espérer que son intelligence reprendrait quelque équilibre et que la vie nouvelle qui lui serait faite à Wincott lui donnerait enfin le bonheur. En elle-même, ces considérations n'étaient certainement pas de nature à m'attrister le moins du monde, et cependant, tant que la nuit dura, un accablement inconcevable, inexplicable, pesa lourdement sur ma pensée. Et ce fardeau, que la venue du jour aurait dû alléger, demeura le même quand je sortis dès l'aurore pour aller respirer l'air frais de la matinée. Cette journée vit commencer une besogne des plus embarrassantes. Il fallut ouvrir des négociations avec les autorités locales. Ceux-là seuls qui ont eu affaire aux agents de l'administration italienne pourront se figurer à quel point notre patience fut mise à l'épreuve par tous ceux avec qui nous traitions. On nous renvoyait d'un bureau à l'autre, on nous criblait de regards curieux, de questions importunes, de mystifications effrontées. Non que notre affaire présentât des complications et des difficultés spéciales, mais tout simplement parce que chacun des dignitaires civils à qui nous nous adressions éprouvait le besoin de constater son importance à ses yeux et aux nôtres en nous obligeant à passer par tous les circuits imaginables. Fatigué de ces formalités absurdes après les premières 24 heures de notre vie officielle, je laissai Alfred continuer seul l'indispensable série de démarches qui nous étaient imposées, afin de pouvoir réfléchir tranquillement au seul problème vraiment sérieux que nous eussions à résoudre, la question de savoir comment pourraient être enlevés en toute sécurité les restes mortels que recelait encore le hangar du couvent. Je ne vis rien de mieux que d'écrire à un de mes amis, établi à Rome, où je savais qu'il est d'usage d'embaumer après leur mort les grands dignitaires de l'Église, ce qui me faisait penser que nous devions y trouver les ressources chimiques requises par les circonstances où nous étions placés. Ma lettre disait simplement que l'enlèvement du corps était d'une impérieuse nécessité. J'ajoutai la description de l'état où je l'avais trouvé, je donnais ensuite mes pleins pouvoirs pour le règlement du salaire que demanderait la personne ou les personnes les plus capables de nous venir en aide. Il y eut encore ici bien des difficultés, bien des formalités inutiles. Mais enfin la patience, la persévérance et l'argent triomphèrent de toute obstination. Deux embaumeurs, expressément envoyés de Rome, vinrent remplir auprès de nous les fonctions de leur état. Il est superflu que j'entre ici dans des détails bien faits pour affecter désagréablement l'imagination de mes lecteurs. J'en aurais dit assez en constatant que les progrès de la corruption furent suffisamment arrêtés grâce à l'énergie de certains agents chimiques pour que les restes placés dans le cercueil puissent être transportés en Angleterre convenablement et sans aucun risque. Après 10 jours entiers, perdus en vain retard en formalités minutieuses, j'eus enfin le plaisir de rendre le hangar du couvent à de moins funèbres usages. J'échangeai avec mon vieux capucin une dernière prise de tabac et je fis avancer devant la porte de l'auberge les voitures de voyage qui allaient nous emmener à petite journée. Il s'était à peine écoulé un mois depuis notre départ lorsque nous rentrâmes dans la capitale, ayant mené à bien un projet que toutes nos connaissances avaient déclaré parfaitement chimérique et qui, pendant quelques jours, nous avait exposé à la risée universelle. Nous ne songeâmes plus, une fois à Naples, qu'à nous procurer les moyens d'emporter le cercueil en Angleterre, et par mer, cela va de soi. Nous ne trouvâmes, cependant, aucun navire marchand qui dût prochainement mettre à la voile pour n'importe quel port de la Grande-Bretagne. Il ne nous restait donc d'autres ressources que de fréter nous-mêmes un bâtiment. Impatient de rentrer chez lui, Et ne voulant se séparer du cercueil qu'après l'avoir vu placé dans les caveaux de Wincott, Moncton n'hésita pas à passer un traité de charte partie avec le premier navire qui se trouva disponible. Un brick sicilien devait se trouver, plutôt que tout autre, en état de prendre la mer, et par conséquent ce fut lui que nous choisîmes. Les meilleurs ouvriers que les chantiers purent fournir se mirent aussitôt à l'œuvre, et pour former l'équipage, on requit l'élite des marins qui, dans ce moment-là, se trouvaient en grève sur les quais de Naples. Moncton, après m'avoir exprimé sa reconnaissance dans les termes les plus chaleureux, ne manifesta nullement l'intention de m'inviter à faire avec lui le voyage d'Angleterre. Mais il fut enchanté, en même temps que surpris, quand je lui offris spontanément de prendre passage à bord de son brick. Les incidents étranges dont j'avais été témoin, la découverte extraordinaire qu'il m'avait été donné de réaliser depuis notre première rencontre à Naples, m'avait intimement associé à ce projet qui était pour lui d'une importance si capitale. Je ne partageais aucune des illusions de ce pauvre garçon, et cependant je n'exagère point en disant que mon désir de mener à bout notre singulière aventure égalait celui qu'il avait conçu de replacer enfin le cercueil sous les voûtes de Wincott. Dans ce désir, oserais-je l'avouer, la curiosité entrait pour une aussi forte part que la sympathie, alors que je m'offrais ainsi pour accompagner cet ami de fraîche date. Nous mîmes à la voile par une calme et radieuse soirée. Pour la première fois depuis que je le connaissais, Moncton semblait véritablement joyeux. Il causait et plaisantait sur toutes sortes de sujets, se raillant de moi quand je lui dis que la crainte du mal de mer m'empêchait de prendre part à sa gaieté. Ceci, au fond, n'était qu'un prétexte. Je dissimulais à mon ami, par cette futile explication, un retour inattendu de l'accablement inexplicable auquel je m'étais déjà vu en proie pendant mon séjour à Fondi. Tous les auspices étaient favorables, chacun, à bord du brick, manifestait les dispositions les plus sereines. Le capitaine trouvait son bâtiment le meilleur du monde, l'équipage composé d'Italiens et de Maltais se félicitait hautement de cette courte traversée qu'ils allaient faire, largement payée, sur un navire bien garni de vivres. Moi seul, j'avais le cœur serré. Je ne pouvais me donner aucune bonne raison de cette mélancolie qui m'accablait, et contre elle, cependant, je ne savais comment réagir. Le premier soir de la traversée, je fis une découverte qui n'était nullement de nature à rendre à mon esprit son équilibre habituel. Moncton était dans la cabine où l'on avait installé la caisse d'emballage renfermant le cercueil. Quant à moi, je me tenais sur le pont. La brise avait faibli presque au grand calme, et je regardais avec indolence les voiles qui, de temps en temps, retombaient bruyamment le long des mâts, lorsque le capitaine vint à moi et, m'attirant à l'écart de l'homme qui tenait le gouvernail, me dit à l'oreille « Il y a quelques grabuges chez nos hommes du gaillard d'avant. Vous avez sans doute remarqué le silence qui s'est fait tout à coup parmi eux au moment où le soleil allait disparaître. » Ceci, effectivement, lui dis-je, ne m'avait pas échappé. « Nous avons à bord, poursuivit le capitaine, un mousse né à Malte, garçon d'ailleurs fort alerte, mais dont il faut se méfier. Il a dit à nos hommes, paraît-il, que cette caisse logée dans la cabine de votre ami renfermait un cadavre. » Le cœur me manqua devant cette apostrophe du capitaine. Au courant des superstitions insensées qui trouvent créance chez les marins, plus spécialement chez les marins étrangers, j'avais pris soin de faire circuler à bord du brick, avant l'embarquement du cercueil, le bruit que la caisse d'emballage renfermait une ancienne statue de marbre et à laquelle M. Moncton attachait un grand prix et qu'il ne voulait jamais perdre de vue. Comment ce petit mousse maltais avait-il pu découvrir que la soi-disant statue était le corps d'un homme? En cherchant à résoudre cette question, mes soupçons s'arrêtèrent sur le valet de chambre de Moncton, qui parlait couramment l'italien et que je savais un incorrigible bavard. Cet homme ne voulut jamais convenir de son indiscrétion lorsque je la lui reprochais formellement, mais jusqu'à présent, ses dénégations m'ont laissé tout à fait incrédule. « Ce petit démon ne voudra jamais dire d'où il a su ce qu'il affirme avec tant d'aplomb, » continua le capitaine. « Il ne me convient pas d'ailleurs de chercher à pénétrer vos secrets, mais je vous conseille de réunir l'équipage et de donner au mousse un démenti formel, soit qu'il ait dit vrai, soit qu'il se trompe. Nos matelots sont un tas d'imbéciles qui croient aux fantômes et à toutes ces billevesées. Quelques-uns prétendent qu'ils ne se seraient jamais laissés porter sur le rôle s'ils avaient su qu'ils dussent faire voile avec un mort. D'autres se bornent à murmurer. Mais je crains qu'ils ne nous donnent tous, plus ou moins, du fil à retordre en cas de gros temps, si cet affreux gamin ne reçoit pas de vous, ou de l'autre gentleman, la contradiction la plus formelle. L'équipage prétend que, si vous affirmez sur l'honneur le mensonge du petit Maltais, on vous laissera libre de le faire passer par les verges. Si vous vous y refusez, au contraire, nos gens sont décidés à croire ce qui leur a été dit. Le capitaine ici s'arrêta pour attendre ma réponse. Je n'en avais point à lui adresser et ne savais comment sortir de cette position critique. Faire punir le mousse en donnant ma parole d'honneur pour garantir un mensonge pur et simple, il n'y avait certes pas à y songer. Et cependant, quelle autre issue à ce fâcheux dilemme ? Aucune dont je me pusse aviser. Je remerciai le capitaine du zèle qu'il portait à nos intérêts, en lui disant que je prendrais le temps de réfléchir, et le priant de ne point communiquer à mon ami la découverte dont il venait de me parler. Il me promit le silence, d'un air passablement renfrogné, puis me quitta sans un mot de plus. Nous avions espéré que le vent fraîchirait au matin, mais la brise ne s'éleva point. Vers midi, l'atmosphère s'alourdit et s'échauffa. Nous étouffions et la mer était lisse comme un panneau de cristal. Je vis le regard du capitaine se porter fréquemment et avec inquiétude du côté du vent. Presque aux limites de l'horizon et perdu dans l'azur du ciel, j'observai là un petit nuage noir et m'informai s'il y avait apparence qu'il nous amenât un peu de brise. « Plus que nous n'en voulons, » répondit laconiquement le capitaine, qui, à ma grande surprise, fit monter l'équipage au mât pour serrer les voiles. La manière dont cette manœuvre fut exécutée ne montra que trop clairement les dispositions de nos hommes. Ils faisaient leur besogne lentement et d'un air boudeur, échangeant des murmures et de sourdes imprécations. L'attitude du capitaine, qui les stimulait à grand renfort de gros mots et de jurons, me convainquit que nous étions en péril. Je regardai une fois encore du côté du vent. L'unique petit nuage était devenu comme un énorme banc de vapeur sombre et la mer au bord de l'horizon n'était plus de la même couleur. « La bourrasque va venir sur nous avant que nous sachions où nous en sommes, » dit le capitaine. « Allez en bas, vous ne feriez ici que gêner la manœuvre. » Je descendis dans la cabine pour préparer Moncton à ce qui allait arriver. Il me questionnait encore au sujet de ce que j'avais vu sur le pont lorsque la tempête nous atteignit. Nous sentîmes le petit brick craquer un instant comme s'il allait sombrer, puis il parut tournoyer sur lui-même et redevenir ensuite immobile, quoique toutes ses planches frémissent encore. Suivit un choc final qui nous précipita de nos sièges, un tumulte assourdissant et une masse d'eau qui envahit précipitamment la cabine. À demi submergés, nous nous traînâmes sur le pont. Le brick avait « fait chapelle », comme disent les marins, et maintenant reposait sur sa quille d'arrière. Avant que je pusse rien distinguer dans cette horrible confusion, si ce n'est que nous étions absolument à la discrétion de la mer, j'entendis partir de l'avant une voix qui domina aussitôt les clameurs et les hurlements du reste de l'équipage. Les mots qu'elle prononçait appartenaient à la langue italienne, mais je n'en compris le sens que trop aisément. Nous avions une voie d'eau et la mer pénétrait dans les flancs du vaisseau avec l'élan du flot qui jaillit d'une écluse ouverte. Le capitaine, en face de ce nouveau danger, sut conserver tout son sang-froid. Il demanda une hache pour abattre le mât de misaine et, appelant quelques matelots pour l'aider en cette besogne, il enjoignit aux autres d'accoutrer les pompes. À peine avait-il prononcé ces mots qu'une révolte ouverte éclata parmi nos hommes. Celui qui semblait la diriger déclara, lançant un regard de menace, que les passagers étaient bien libres d'agir à leur guise, mais que ses camarades et lui voulaient prendre la chaloupe, laissant le navire maudit et l'homme mort qui le faisait couler bas, s'en aller ensemble au fond de la mer. Tandis qu'il parlait, il se fit une rumeur dans les rangs des matelots, et quelques-uns, je le remarquai, montraient du doigt avec dérision quelque chose qui se passait derrière moi. Tournant la tête, je vis Moncton, jusqu'alors resté à mes côtés, reprendre le chemin de la cabine. Je le suivis aussitôt, mais la confusion qui régnait sur ce pont à demi noyé, l'impossibilité, vu la position du vaisseau, de mettre un pied devant l'autre, sans céder en même temps de ses mains, retardèrent si bien ma marche qu'il me fut impossible de le rattraper à temps. Lorsque j'arrivai en bas, il était couché sur le cercueil qui l'entourait de ses bras, tandis qu'autour de lui, sur le parquet de la cabine, l'eau tournoyait et jaillissait, suivant les mouvements du navire presque englouti. Un éclat menaçant brillait dans ses yeux, une rougeur de mauvais augure couvrait ses joues quand je m'approchai pour lui parler. « Allons, Alfred, lui disais-je, il faut se résigner et faire notre possible pour sortir d'ici sain et sauf. »« Sauvez-vous, cria-t-il en me repoussant de la main, vous avez un avenir. Une fois le cercueil au fond de la mer, tout est fini pour moi dans ce monde. » Si le vaisseau coule bas, je saurai que la fatalité s'accomplit, et je me laisserai engloutir comme lui. » Je vis qu'il n'était en état ni d'écouter la raison, ni de se laisser toucher par aucune prière. Aussi retournai-je sur le pont. Les matelots, renversant devant eux tout ce qui faisait obstacle, s'apprêtaient à lancer la chaloupe, placée au centre du vaisseau, et dont la quille, tandis qu'il était ainsi couché sur le flanc, portait le long de la muraille inférieure. Le capitaine, après un dernier effort pour se faire obéir, les contemplait désormais en silence. La rafale semblait déjà s'épuiser par sa violence même, et je demandai si réellement il n'y avait aucun risque à demeurer sur le vaisseau. Le capitaine répondit que cela eût pu être, au contraire, la meilleure chance si l'équipage s'était montré docile, mais que maintenant il n'y avait rien à attendre d'une telle résolution. Sachant qu'il ne fallait pas compter sur la présence d'esprit du valet de chambre de Moncton, je confiai au capitaine en aussi peu de mots que possible la situation de mon malheureux ami et lui demandai s'il ne consentirait pas à me prêter secours. Un geste de tête me prouva qu'il acquiesçait à ma prière. Nous descendîmes donc ensemble dans la cabine. Il m'est pénible même aujourd'hui de dire à quelles extrémités nous réduisirent en définitive la force corporelle et l'obstination de Moncton. Il fallut garrotter ses mains et le traîner de vive force sur le pont. Les matelots allaient lancer la chaloupe et tout d'abord refusèrent de nous y recevoir. « Misérable poltron !» s'écria le capitaine. « Est-ce que nous avons le mort avec nous cette fois-ci? Ne va-t-il pas couler à fond en même temps que le brick? De qui donc avez-vous peur si nous montons sur la chaloupe ?» Cette apostrophe produisit l'effet désiré. Les matelots eurent honte d'eux-mêmes et revinrent sur leur premier refus. Au moment où nous nous écartions du vaisseau prêt à couler, Alfred fit un effort pour se dégager de mes bras, mais je le tenais solidement et il ne renouvela pas sa tentative. Assis près de moi, la tête basse, il demeura immobile et muet pendant que l'équipage nous entraînait à force de rames loin du navire, immobile et silencieux de même lorsque, d'un commun accord, ils s'arrêtèrent à quelque distance et lorsque nous nous mîmes tous à regarder le brick qui s'enfonçait. Immobile et silencieux enfin, lorsque l'engloutissement eut lieu, lorsque la carène vacillante plongea lentement entre deux vagues, sembla hésiter un moment, émergea de nouveau quelque peu et glissa dans l'abîme pour ne se plus relever. Avec le brick disparaissait son fardeau, et le cadavre qu'une espèce de miracle nous avait fait retrouver nous était arraché à jamais, ces restes précieux à la conservation desquels étaient si singulièrement attachées les espérances de deux êtres vivants et les destinées de leur amour. Quand le navire disparut dans l'abîme profond des mers, je sentis Moncton assis tout près de moi, trembler des pieds à la tête, et je l'entendis se répéter à lui-même tristement, plusieurs fois de suite, le nom de sa chère Ada. Je tâchai, mais ce fut en vain, de détourner ses pensées vers un autre objet. Il me montra sur la mer la place que le brick occupait naguère, et où il ne restait rien à voir que le conflit des vagues écumantes. La place maintenant vide dans le caveau de Wincott y restera vide de toute éternité. En prononçant ces paroles, Il fixa un moment sur mon visage ses yeux attristés qui semblaient m'interroger. Puis il les détourna et, la joue appuyée sur sa main, demeura dans un silence absolu. Signalés bien avant la nuit par un bâtiment de commerce, nous fûmes recueillis à son bord et débarqués à Carthagène, sur la côte d'Espagne. Alfred ne leva pas une seule fois la tête et ne m'adressa pas une seule fois la parole pendant tout le temps que nous passâmes sur ce navire. Je remarquai d'ailleurs, non sans inquiétude, qu'il se parlait à lui-même et d'une manière incohérente, récitant sans cesse les vers de l'ancienne prophétie, sans cesse faisant allusion à la place restée vide dans le caveau de Wincott, répétant à chaque instant, d'une voix fêlée qui produisait sur moi une impression singulièrement pénible, le nom de la jeune fille qui attendait en Angleterre le retour de son fiancé. Il me donna bientôt d'autres craintes. Vers la fin de notre voyage, je le vis en proie à des accès alternatifs de chaleur fiévreuse et de frissons que, dans mon ignorance, je pris pour les symptômes d'une fièvre ordinaire. Mon erreur ne fut pas de longue durée. À peine à terre depuis un jour, son état empira tellement que je dus recourir au meilleur médecin de Carthagène. Pendant 24 ou 48 heures, ils différèrent comme de coutume sur la nature du mal qui leur était soumis. Mais des indices alarmants ne tardèrent pas à se montrer. Les hommes de l'art déclarèrent que la vie d'Alfred était en péril, ajoutant que sa maladie, maintenant bien caractérisée, était une fièvre cérébrale. Mon trouble et mon chagrin, devant cette nouvelle responsabilité qui allait peser sur ma tête, ne me permirent pas tout d'abord d'arrêter un plan de conduite. Je résolus en fin de compte d'écrire au vieux prêtre qui avait été le précepteur d'Alfred, et qui, je le savais, résidait encore à Wincott Abbey. Je lui faisais part de tout ce qui était survenu, le priant de communiquer ces tristes nouvelles à Miss Elmslie avec tous les ménagements possibles, et lui donnant l'assurance que, jusqu'au bout, je resterais auprès de Moncton. Ma lettre partit, et lorsque j'eus envoyé chercher à Gibraltar ce qui se trouvait de mieux en fait de médecins anglais, je compris que j'avais épuisé toutes les ressources disponibles autour de moi et qu'il ne me restait plus rien à faire si ce n'était d'attendre et d'espérer. Je passai bien des heures douloureuses et pleines d'angoisse auprès de mon pauvre ami. Je me demandais bien des fois si j'avais eu raison d'encourager ses chimériques espérances. Les motifs qui m'y avaient déterminé après notre première entrevue me parurent pourtant, toute réflexion faite, n'avoir rien perdu de leur valeur. Aucun autre moyen que celui que j'avais pris pour hâter le retour d'Alfred en Angleterre et le rendre à Miss Elmslie, si impatiente de le revoir. Ce n'était pas ma faute si un désastre que personne n'aurait pu prévoir était venu renverser à la fois tous ses projets et tous les miens. Maintenant que le malheur était arrivé, maintenant qu'il était irrévocable, comment faudrait-il, dans le cas où la santé physique de mon pauvre ami viendrait à se rétablir, combattre la maladie mentale qui menaçait sa raison? Quand je venais à réfléchir sur ce défaut héréditaire de son organisation intellectuelle, sur cette première impression de crainte produite sur lui par Stephen Moncton et qui ne s'était jamais effacée depuis lors, sur la solitude périlleuse où il avait vécu pendant ses longs séjours à l'abbaye, sur la réalité qu'avait à ses yeux l'apparition par laquelle il se croyait sans cesse hanté, je désespérais, je l'avoue, d'ébranler la foi superstitieuse qu'il mettait dans chaque vers et dans chaque mot de l'ancienne prophétie de famille. Si la série de coïncidences frappantes qui semblait en attester la vérité avait produit sur moi une impression forte et durable, et ceci à coup sûr était la vérité, comment m'étonner qu'elles eussent déterminé sur son esprit, constituait comme il l'était, une conviction absolue. Dans une discussion en règle entre lui et moi, que lui répliquer? S'il me disait par exemple « La prophétie concerne le dernier de la famille, je suis le dernier de la famille. La prophétie mentionne une place vide dans le caveau de Wincott. Cette place vide y existe au moment où je parle. Je vous ai annoncé, sur la foi de la prophétie, que le corps de Stephen Moncton n'avait pas reçu de sépulture, et vous avez constaté qu'il en était ainsi. » S'il me tenait ce langage, que me servirait de lui répondre « Ce sont là tout compte fait de bizarres coïncidences, mais elles ne signifient absolument rien. Plus je pensais à la tâche qui me serait imposée s'il venait à se rétablir, plus je me sentais enclin au découragement. Et quand le médecin anglais qui lui donnait ses soins venait me dire « La fièvre du malade pourra se dissiper, mais il a une idée fixe qui ne le quitte ni jour ni nuit, qui a dérangé sa raison et qui finira par le tuer, à moins que vous ou quelqu'un de ses amis ne puissiez l'en débarrasser. » Quand on venait me dire ceci, j'éprouvais, plus amer que jamais, le sentiment de mon impuissance, et j'écartais plus volontiers que jamais toute idée ayant un rapport quelconque avec un avenir qui ne me laissait aucun espoir. Je n'attendais de Wincott qu'une réponse écrite. Ce fut donc pour moi une grande surprise et un soulagement non moindre que de recevoir un jour la visite de deux gentlemen inconnus, dont le premier était le vieux prêtre à qui j'avais écrit, et le second un parent de Miss Elmslie. Les symptômes fiévreux avaient disparu fort peu de temps avant l'arrivée de ces messieurs, et les médecins déclaraient Alfred hors de danger. Les nouveaux venus manifestaient le désir empressé de savoir si le malade serait bientôt assez fort pour se mettre en route. Ils étaient venus à Carthagène tout exprès afin de l'emmener avec eux, et comptaient, beaucoup plus que moi, sur le bon effet de l'air natal pour son rétablissement définitif. Quand j'eus répondu à toutes leurs questions relatives au voyage, je me permis de leur en adresser quelques-unes concernant Miss Elmslie. Son parent m'informa que, par suite des inquiétudes que lui causait Alfred, elle était dans un état fâcheux, soit au physique, soit au moral. Ils avaient dû la tromper sur le caractère dangereux du mal auquel il était en proie pour la détourner de les accompagner en Espagne. Par une suite de progrès fort lents, et qui laissait encore beaucoup à désirer, Alfred retrouva partiellement sa vigueur corporelle, mais aucun changement ne se manifestait dans l'état maladif de son intelligence. Dès le premier jour de sa convalescence, on avait pu constater, comme résultat de la fièvre cérébrale, une étrange perversion dans l'exercice de ses facultés mnémoniques. Tout souvenir des événements récents était effacé en lui. Il ne se rappelait rien de ce qui avait rapport à son séjour à Naples, à nos relations, à son voyage en Italie. Et toutes les circonstances de fraîche date avaient si bien disparu de sa mémoire que, bien qu'il reconnût le vieux prêtre et son propre valet de chambre, je semblais lui être devenu étranger. Chaque fois que j'approchais de son chevet, la curiosité, le soupçon peint dans ses regards nous causaient un inexprimable chagrin. Ces questions n'étaient relatives qu'à Miss Elmslie et à Wincott Abbey. Ces causeries n'avaient rapport qu'à l'époque antérieure à la mort de son père. Les médecins auguraient plutôt bien que mal de cette défaillance partielle de sa mémoire. Elle ne devait pas durer, disait-il, et en attendant elle servait sa guérison, en écartant de l'esprit du malade une inquiétude nuisible à son rétablissement. Je m'efforçais de les croire. Je m'imposais, le jour du départ venu, les espérances que je voyais chez les vieux amis chargés de ramener Alfred. Mais un tel effort ne m'était pas permis. Le pressentiment d'une séparation éternelle pesait sur mon cœur, et mes yeux se remplirent de larmes quand je vis mon pauvre ami, pâle et maigre, se hisser à grand-peine, poussé d'un côté, soulevé de l'autre, dans sa calèche de voyage. Et celle-ci prendre lentement la route du pays où il était attendu. Il ne m'avait pas encore reconnu, et ses médecins me demandaient de lui épargner l'émotion d'une telle reconnaissance, au moins pour quelques semaines de plus. Je l'aurais sans cela escorté jusqu'en Angleterre. Du moment où ce douloureux office m'était interdit, je n'avais qu'à changer de lieu et à me remettre le plus tôt possible de l'espèce d'épuisement auquel m'avaient condamné trop de veilles inquiètes et de tourments secrets. Les villes auxquelles l'Espagne doit sa renommée ne m'étaient déjà plus nouvelles à l'époque dont je parle, mais je les visitais pour la seconde fois, et je ne revis pas sans émotion les salles de l'Alhambra, les rues de Madrid. Il m'arriva une ou deux fois de songer à un pèlerinage en Orient, mais les récents événements m'avaient changé du tout au tout, et singulièrement atténué mon zèle de locomotion. Cette soif vague que rien n'apaise et à laquelle notre langue donne un nom particulier, « homesickness », s'était emparé de mon cœur, et cédant à l'influence de la nostalgie, je résolus de retourner en Angleterre. J'y revins en passant par Paris, où il était convenu que le prêtre m'écrirait à l'adresse de mon banquier, dès qu'Alfred serait rentré à Wincot. Sa lettre m'aurait été acheminée en Orient, si par hasard j'eusse donné suite à mon projet de voyage. J'écrivis à temps pour empêcher tout malentendu à cet égard, et en arrivant à Paris, avant même de pousser jusqu'à mon hôtel, je fis halte chez le banquier. Au moment où la lettre me fut remise, l'encadrement noir de l'enveloppe m'avait tout appris. Alfred Monckton était mort. Une seule consolation, c'est qu'il était mort paisiblement, presque heureux, sans une seule allusion à ces chances fatales qui avaient amené la réalisation de l'antique prophétie. Mon élève bien-aimé, mandait le vieux prêtre, sembla recouvrer quelque force pendant les premières journées qui ont suivi son retour. Ce n'était là qu'une vaine apparence, et la fièvre est bientôt revenue, quoique sans accès violent. À partir de là, il s'est affaibli jour par jour graduellement, et c'est ainsi qu'il s'est séparé de nous pour le suprême et redoutable voyage. Miss Elmsley, informée que je vous écris, me charge de vous exprimer sa reconnaissance profonde, éternelle, pour toutes les bontés dont Alfred vous fut redevable. Elle nous dit, quand nous le lui ramenâmes, qu'elle l'avait attendu à titre de fiancée, et que désormais elle le soignerait à titre d'épouse. En effet, elle ne l'a plus quitté. Son visage était tourné vers elle, il avait la main dans les siennes, au moment où son âme s'est envolée. Vous apprendrez peut-être avec quelque consolation qu'il n'a jamais parlé des événements survenus à Naples, ni du naufrage qui en a été la suite depuis l'époque de son retour jusqu'au jour de sa mort. 3 jours après la lecture de cette lettre, j'étais à Wincot pour y recueillir de la bouche même du prêtre le récit détaillé de la mort d'Alfred. Lorsque j'appris que, sur sa requête même, il avait été enterré dans le fatal caveau de l'abbaye, je subis une espèce de choc qu'il me serait difficile d'analyser ou d'expliquer. Le prêtre me fit descendre dans cette crypte glaciale dont les voûtes basses portaient sur de lourds piliers saxons. Des niches étroites se succédaient de chaque côté du caveau, laissant apercevoir seulement l'extrémité des cercueils qu'elle renfermait. Ça et là, pendant que mon compagnon traversait cette lugubre avenue, promenant sa lampe à droite et à gauche, on voyait reluire les clous et les ornements argentés. Arrivé tout au fond, il s'arrêta, désignant une niche, et me dit « C'est là qu'il repose, entre son père et sa mère. » Je portai mon regard un peu plus loin et vis ce qui me parut d'abord une sorte de long conduit obscur. « Ce n'est qu'une niche vide, » dit le prêtre, attaché à mes pas. Si le corps de M. Stephen Monckton avait été rapporté à Wincot, c'est là qu'on aurait logé son cercueil. Un frisson me parcourut des pieds à la tête, accompagné d'un sentiment de crainte que je rougis maintenant d'avoir conçu, mais qu'alors je ne pus combattre. À l'autre extrémité du souterrain, par la porte restée ouverte, la sainte clarté du jour versait, pour ainsi dire, ses flots joyeux. Je me détournai de la niche vide, précipitant mes pas vers le soleil lumineux et la fraîche atmosphère du nord. Comme je traversais la cour gazonnée dont la pente aboutissait au caveau, j'entendis derrière moi le bruissement d'une robe de femme, et me retournant, je vis s'avancer une jeune femme en grand deuil. Sa physionomie douce et triste, et la manière dont elle me tendit la main, m'apprirent à l'instant même qui elle était. « On m'a informé que vous étiez ici, me dit-elle, et j'ai voulu... » Sa voix alors faiblit quelque peu. En voyant ses lèvres trembler, j'éprouvai une espèce d'angoisse, mais avant que j'eusse pu ouvrir la bouche, elle s'était remise et continua. « J'ai voulu vous serrer la main et vous remercier de cette affection fraternelle que vous avez témoignée à mon Alfred. J'ai voulu vous dire en même temps que dans tout ce que vous avez fait, je suis forcé de reconnaître les meilleures aspirations de l'amitié la plus sincère et la plus prudente. Peut-être allez-vous bientôt quitter encore une fois ce pays. Peut-être suis-je destiné à ne plus vous revoir. Mais je n'oublierai jamais, non jamais, ce que vous lui avez témoigné d'affection alors qu'il avait justement besoin d'un ami. Personne autant que vous n'a droit à ma reconnaissance, et je vous la garderai avec un affectueux souvenir jusqu'au jour où j'irai le rejoindre. » L'inexprimable attendrissement de sa voix, qui cessa peu à peu de trembler pendant qu'elle m'adressait la parole, la beauté de son pâle visage, l'innocente loyauté de ses yeux inquiets et tristes, m'affectèrent si vivement que tout d'abord je n'osais lui répondre, sinon par geste. Avant que je me sentisse en état de parler, elle m'avait encore une fois serré la main et s'était ensuite éloignée. Jamais il ne m'a été donné de la revoir. Les chances et les accidents de la vie nous ont tenus séparés. La dernière fois que j'entendis parler d'elle, il y a de cela bien des années, elle était encore fidèle à la mémoire du mort. Et pour n'offenser point l'ombre d'Alfred Monckton, elle s'appelait encore Ada Helmsley. Wilkie Collins, Mad Monckton, traduit par Paul-Émile Doranforgue, lu par Vincent Delépine.